Bonsoir. Charles, je vous rappelais que donc que mardi prochain, le cours qui avait été initialement prévu donc a été annulé et que la dernière intervention aura lieu le lundi, donc lundi prochain. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas eu les dernières versions via la newsletter, donc qui est enregistrée. Voilà. Ce soir, moi, autour de ce thème de la crise, en réfléchissant à plusieurs, j'avais une forme de rêverie quand ensemble on avait essayé de penser différents thèmes d'intervention autour de autour des aspects infantiles qui peuvent être mobilisés à l'adolescence. J'avais proposé de nommer cette intervention crise bébé et crise d'ado, réflexion clinique sur le passage du pouce au doigt. Je ne vais pas vous faire de gestes. Je pense que tout le monde comprend comment on peut passer la succion du pouce à, je dirais, la monstration du majeur. Voilà. Donc c'est une forme de boutade aussi, un petit peu de provocation, mais il y a cet esprit-là un peu à l'université populaire aussi, de venir essayer de provoquer la pensée. Voilà, donc l'idée, c'est de réinterroger les processus adolescents sous le prisme de la clinique infanto-juvénile et de la clinique des nourrissons essentiellement. Ce n'est pas une découverte, peut-être pour vous, mais en tout cas pour la plupart des cliniciens, c'est quelque chose de relativement acquis. Mais je trouvais cette idée assez heuristique et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir vous en faire part. L'idée, elle est bien de ne pas tenter de chercher à effectuer des liens, de causalité entre l'adolescent et le bébé. Parfois, certains psychanalystes formulent ça en disant c'est les parts bébé de soi, c'est l'enfant dans l'adulte. Et Dyatkin qui avait parlé de ça, hein, René Dyatkin. Après, il y a le bébé dans l'adulte. Avec la clinique des adolescents, depuis quelques années, il y a un bon nombre de psychiatres, de pédopsychiatres et de psychanalystes qui se sont intéressés, qui travaillent avec des adolescents et d'autres qui travaillent avec des bébés. Parfois, ils ont cette double pratique et ils se sont aperçus qu'il y avait quand même un certain nombre de processus un petit peu similaires. L'idée n'est donc pas de faire des liens de causalité. Hein. Il n'y a pas de recherche exploratoire du point de vue de l'étiologie par rapport à ça. Pour autant, on peut s'apercevoir que les manifestations cliniques sont surprenamment, à certains endroits, assez similaires. Voilà. Ça a donné lieu, ces réflexions des analystes et des psychiatres, à des colloques qui s'appellent les colloques bébé-ado, qui ont lieu à Paris et qui ont lieu, je crois, tous les deux ans, et qui proposent donc des réflexions sous le prisme de certains thèmes, la destructivité, la dépression. Vous pouvez trouver d'ailleurs les publications auxquelles ça a donné lieu dans des petits bouquins qui sont publiés aux éditions Carnepsy, je crois. Voilà, donc l'idée, elle n'est pas d'apporter un aspect explicatif, hein. Elle est vraiment d'essayer d'ouvrir à une forme d'associativité entre ces différentes cliniques. L'intérêt que ça peut avoir de proposer une réflexion en sens, c'est de pouvoir ouvrir à une nouvelle voie d'appréhension des processus pubertaires qui reste assez énigmatique. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a différentes étapes de la vie auxquelles on n'a pas accès, on a difficilement accès, essentiellement les premières étapes de la vie, infantile, précoce, et puis l'adolescence. C'est-à-dire quand on essaie de regarder un peu en arrière, on s'aperçoit quand nos proches nous restituent des aspects de comment on a pu être soi adolescent, c'est des choses qui nous paraissent presque étrangères à nous-mêmes. Et à tel point qu'on peut se demander est-ce que ça nous appartient bien, Freud a proposé une première lecture qui était que ça tombait sous le coup du refoulement. C'est-à-dire qu'il y a un premier refoulement originaire, déoriginaire, qui apparaît à l'arrivée du langage, et qui aurait pour effet de générer un refoulement des expériences vécues antérieures à l'âge de 3 ans. Et puis, second refoulement, lié au, je dirais, au remaniement oedipien issu de la, du processus pubertaire, hein, et que les processus adolescents seraient eux aussi refoulés. L'expérience adolescente serait en partie refoulée. Et les études qui montrent, l'autre fois, Régine Pratt intervenait, Salmeyer, et elle pouvait expliquer comment des études récentes de chercheurs ont pu faire constater que, a priori, les expériences effectivement antérieures à l'âge de 24 mois n'auraient pas d'inscription mnésique, à proprement parler, dans la psyché, dans le cerveau de l'enfant, et elle s'inscrirait sur des formes de, je dirais, de proto-représentation, les psychanalystes diraient, en tout cas des traces qui s'inscrivent dans le soma, mais pas dans des représentations conscientes, ce qui fait qu'on n'en a pas de souvenirs, on ne peut pas se visualiser, avoir une image mentale de ce qu'on a vécu quand on avait 15 mois ou autre. Sans doute que le refoulement adolescent est beaucoup plus partiel, c'est-à-dire qu'au terme d'un effort et d'un travail introspectif ou analytique, on peut quand même réussir à remobiliser ces expériences-là. En tout cas, cette expérience de l'adolescence, elle reste énigmatique, et c'est bien ces points énigmatiques-là que je souhaitais essayer de partager avec vous. L'idée était aussi de croiser ça avec le prisme de la crise. Quand j'ai commencé à essayer de penser la question, je me suis aperçu que la crise, elle est connue à l'adolescence, c'est quelque chose d'évident, dans le cas d'adolescence, c'est éminemment banal. Mais pour autant, si on le pense, un temps soit peu, c'est surtout une crise qui est issue d'une poussée, on va dire, biologique, hein, biophysiologique, liée à un développement corporel, et que ce bouleversement-là, qui vient depuis l'intérieur du corps, impose au psychisme un besoin de réorganisation, d'adaptation. Ça vient, je dirais, un peu ébranler l'ensemble de la stabilité qui avait été difficilement acquise jusque-là dans les premières phases de l'enfance. Cette crise, elle est biologique, et on pourrait dire qu'il n'y a pas de crise biologique du même type chez le nourrisson. Hein. Pour autant, ce serait négliger l'idée que le système nerveux central est inachevé à la naissance. C'est bien, c'est ce qui induit aussi une forme de dépendance du nourrisson à son environnement premier. Une dépendance dans le sens où il n'est pas, on pourrait dire, appareillé suffisamment pour pouvoir faire face au monde seul, comme le sont d'autres grands mammifères. Hein. Si on regarde un petit peu les études éthologiques par rapport à ça, il y a d'autres formes d'animaux que les humains qui sont bien plus autonomes, en tout cas bien plus rapidement. Le nourrisson, d'un point de vue neurophysiologique, c'est la myélinisation du système nerveux central, hein, qui n'est pas achevé et qui va prendre plusieurs années à s'achever. Ce qui veut dire, c'est pour le dire dans un langage simple, on va dire, la myéline, c'est une espèce de gaine qui a, qui permet la transmission du message nerveux, et que cette myélinisation qui est en cours de développement fait que dans les premiers temps de la vie, les mouvements ne sont pas forcément coordonnés, les connexions synaptiques ne sont pas forcément précises, et la psyché et le cerveau de l'enfant est en construction. Elle va se construire au fil de ses expériences. En ce sens, moi, c'est ça qui m'a amené à essayer de penser la question de l'expérience du nourrisson aussi en tant que crise, parce qu'il y a bien quelque chose qui, corporellement, est imposé pour le jeune enfant, qu'il n'est pas en capacité de pouvoir comprendre, et où son appareil psychique va devoir essayer de s'approprier peu à peu l'ensemble de ses expériences. Je reprendrai par la suite de quelles expériences il s'agit. On peut dire déjà qu'en tout cas, il y a une forme d'articulation psyché-soma qui n'est pas là comme un acquis, hein, et qui d'emblée et qui va devoir se construire au fil des expériences. C'est bien au travers d'une sensation de douleur qu'on peut commencer à qualifier cette douleur, et avec un environnement qui nous aide à la qualifier, pouvoir essayer de se construire des représentations sur quel type de sensation il s'agit, quel type de perception est intégré dans l'organisme. Et donc c'est ça qui permet le développement de l'organisation, mais aussi du coup d'un appareil avancé. Cette crise, du coup, elle bouleverse un existant à l'adolescence, alors que chez le nourrisson, elle bouleverse un état de non-organisation. Hein. C'est-à-dire que on pourrait dire que le nourrisson naît sans être préalablement véritablement organisé, si ce n'est ses expériences utérines, et donc elles sont très parcellaires, et il va devoir, au fil de ses expériences vécues, essayer d'intégrer ça dans son appareil psychique. La crise, je voulais aussi vous en parler en tant qu'un potentiel réorganisateur, dans le sens où souvent on parle de crise, alors quand on entend la crise au niveau économique à l'heure actuelle, ça nous fait tous déprimer, la première fois qu'on est intervenu tous ensemble, on parlait de ces aspects-là au moment du débat, qui sont pas très joyeux. Pour autant, la crise au niveau du processus psychique, elle permet une forme de déconstruction, pour le dire comme ça simplement, de l'état antérieur, et elle va permettre une reconstruction ultérieure, en tout cas, elle contient en elle-même l'espoir qu'une réorganisation va venir. S'il n'y a pas cet espoir-là, effectivement, la crise risque d'être beaucoup plus difficilement vécue. La crise, du coup, elle est une forme de mise en mouvement, et un bouleversement et une promesse de réorganisation. Et cette promesse-là, je dirais, il faut que l'adolescent, quand on pense à l'adolescent, il faut que l'adolescent soit suffisamment, aille suffisamment bien, j'ai envie de le dire comme ça, pour pouvoir la surmonter. Je pense que ce qui est le plus douloureux dans les crises adolescentes, c'est bien quand les adolescents vont pas très bien avant la montée pubertaire, et que du coup, ils ne sont pas à même de pouvoir intégrer cet effet de crise que la montée pubertaire, par les modifications biologiques, va engendrer. Pour faire une comparaison qui ouvrirait à l'intervention à venir sur la question du maternel et du féminin, on pourrait dire que la crise d'adolescence confronte à un éprouvé de folie normale. Hein. Ça peut faire penser à l'état de préoccupation maternelle primaire dont Winnicott avait parlé et qui traduisait le bouleversement, je dirais, bio-psychique que toute femme rencontre dès lors qu'elle est confrontée à l'expérience de la grossesse, et que c'est un état qui va lui permettre de s'adapter aux besoins du moi et aux besoins du ça de son nourrisson, et qui va se dissiper au terme de quelques semaines après la naissance de l'enfant. Cet état de préoccupation maternelle primaire, il dit, c'est un état de folie normale. Hein. Il dit, ce serait un état pathologique s'il n'était finalement considéré comme banal. On pourrait dire jusqu'à un certain point que c'est un besoin pour l'individu de devoir, pour la femme en l'occurrence, parce que les hommes ne connaîtront jamais ça, de pouvoir s'adapter à ce qui risque de, enfin, ce à quoi ils vont être confrontés dans les semaines à venir. C'est un effet en sens de préparation. Une expérience folle, et jusqu'à un certain point, la crise d'adolescence est une expérience proche de la folie. Le risque est que si on n'est pas prêt à pouvoir supporter cette expérience proche de la folie, on risque de ne pas pouvoir supporter la crise d'adolescence. Et de fait, essayer de s'en protéger en se construisant soit une fausse réalité, soit en refusant les pulsions qui viennent du corps et les transformations qui peut amener à des troubles de la personnalité, enfin, à l'âge adulte. L'idée, elle pourrait être, voilà, en comparant ça, de dire que ça pourrait être un peu comme une forme de maladie, la crise, mais une maladie normale qui donne la promesse d'un état de santé à venir. De fait, cette rupture de l'articulation psyché-soma à l'adolescence, elle reprend donc le travail d'intégration du nourrisson. Winnicott propose trois phases sur le développement de nourrisson autour de l'intégration, de la personnalisation et de la réalisation. Ça avait été évoqué dans des interventions antérieures, mais l'idée pour le résumer, elle serait de dire que un des premiers travaux, un des premiers besoins de l'appareil psychique, il est de pouvoir intégrer des expériences qui viennent de soi, qui effracte le moi, et où l'individu, qu'il soit nourrisson ou adolescent, a un besoin de pouvoir les intriquer, les amalgamer fonctionnellement pour essayer de les transformer et de pouvoir les supporter. On peut penser là aux expériences de deuil, je reviendrai aux expériences de deuil et de séparation. La première séparation, c'est un arrachement, c'est une douleur terrible, que ce soit chez le nourrisson ou chez l'adolescent. Pour autant, la plupart des personnes réussissent à y survivre. Certains non, mais globalement, on essaie de faire avec la douleur que ça contient, et l'idée, elle est bien de pouvoir essayer de supporter ça, parce que ça fait partie de la vie. Et puis on s'aperçoit qu'au fil des expériences, au fil de notre processus de croissance, les expériences de deuil et de séparation, tout en restant douloureuses, tout en restant un déchirement profond au moment où elles sont vécues, vont quelque peu se tasser, s'intégrer dans l'expérience vécue, et vont permettre à supporter ces expériences-là avec une moindre douleur. On peut prendre une première type d'expérience qui fait trace, donc autour du deuil ou de la séparation. Il y en aurait bon nombre autour, comme je vous le disais, des perceptions, de la perception de la douleur, par exemple, les premières douleurs ressenties sont une effraction dans le corps, mais à la fois elles ne sont pas qualifiées. On sait très bien comment le froid et le chaud sont à peu près indifférenciés. Et quand on se brûle ou quand on met son doigt dans la glace, on ressent une douleur qui fige la sensation, à tel point qu'on ne sait pas forcément comment l'identifier. Peu à peu, en grandissant, on va réussir à préciser ces qualifications de perception et à réussir à aller vers une finesse dans la reconnaissance des sensations ressenties qui vont nous permettre d'enrichir notre appareil à penser et notre appareil psychique d'une manière générale. Ce travail d'intégration, il convoque de fait toutes les expériences sensorimotrices du premier âge. Hein. Et ça, ça reprend l'ensemble des travaux qui ont pu être faits sur le sujet autour du nourrisson. Jusqu'à présent, on peut considérer que là, tout ce que je vous dis concerne plus le nourrisson. Je vais aller vers l'adolescent. De dire quand même qu'il s'agit d'une expérience qui est une exigence pour le moi, et qui est une exigence pour les besoins du moi et les besoins du ça. C'est-à-dire que c'est une exigence pour le maintien d'un appareil psychique un temps soit peu organisé, et qui est une exigence pour la pression pulsionnelle que ressent le nourrisson ou que ressent l'enfant, et vis-à-vis desquels il doit tenter de faire avec. En travaillant avec des adolescents, quand ils racontent leur première déchirure, ou biologiquement, leurs premières érections, c'est des choses qui sont éminemment troublantes, parce qu'ils disent bien, mais ça tire, ça pince, ça fait mal, il y a quelque chose d'énigmatique, c'est absolument pas une expérience de plaisir d'emblée. Hein. C'est une pression, il y a quelque chose qui enfle en soi, et on peut considérer en ce sens que c'est une forme de métaphore du fonctionnement pulsionnel. Ça veut dire que la pulsion, elle se définit par quelque chose qui pousse depuis l'intérieur de soi, mais que cet intérieur de soi est si ancré dans le soma qu'elle n'est pas vécue comme depuis l'intérieur de soi. Elle est intégrée comme venant de l'extérieur de soi. Ce qui peut amener à des étapes de dépersonnalisation à certains moments. Du coup, ces expériences liminaires du nourrisson, elles vont être reprises au moment de la poussée pubertaire. Et là, on peut peut-être rentrer un petit peu dans des aspects plus propres à la clinique adolescente. Je pensais en écrivant ça à la remobilisation des auto-érotismes, par exemple, qui peut être un prisme. Je vous proposais différentes pistes comme ça. La remobilisation des auto-érotismes, on sait les différentes formes d'organisation de la pulsion, les premières étant orales, puis anales, puis génitale, phallique et génitale, et Claire vous précisera ça autour de, je dirais, des aspects œdipiens et post-œdipiens liés aux enjeux vis-à-vis de la grossesse. En tout cas, ces aspects oraux premiers vont être mobilisés, par exemple, à l'adolescence, là où le nourrisson, lui, explore le monde avec sa qualité buccolabiale, en essayant de tout mettre à la bouche, voilà. L'adolescent, lui, est remobilisé du côté de son oralité, ce qu'on va retrouver autour de conduites de type addictive. Je me souviens qu'il y a il y a quelques années, ça remonte un petit peu maintenant, mais il était à la mode d'avoir une forme de tétine chez les ados, hein, accrochée à leur sac à dos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais voilà, ils avaient une tétine de nourrisson, enfin, c'était pas exactement la même tétine que celle des nourrissons, ça devait s'acheter dans les bureaux de tabac, je pense. Et en ce sens, ça devait dire quelque chose aussi, c'est-à-dire de l'addiction à venir. Mais comment, voilà, ce besoin de succion comme ça pouvait être pris, et bien d'ados qui prenaient plaisir à mâchouiller leur. Il existe même des bonbons pour cette forme-là, enfin, il y a un ensemble comme ça d'objets qui peuvent être utilisés pour exciter les cavités buccolabiales, mais surtout retrouver des expériences antérieures de satisfaction qui sont un petit peu plus rassurantes que l'expérience, je dirais, coït génital adulte, parce qu'ils n'en sont pas encore là. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui tend à s'organiser de ce côté-là, qui commence à les titiller, à les tirailler depuis l'intérieur de leur corps, et un besoin, hop, de réassurance vers des modes d'organisation peut-être un peu mieux connus. Ça peut donner aussi des formes alors, plus pathologiques du côté des addictions, ou aux alcools, ou aux sensations fortes au niveau de la bouche, soit après l'usage de cigarettes, de cannabis. On peut retrouver ça aussi du côté des organisations de type anorexique, où l'anorexie renvoie à ce refus justement de pouvoir faire usage pleinement de ces capacités de liaison des pulsions orales. Du coup, il s'agit là d'un exemple sur l'organisation orale de la pulsion, on pourrait dire. Vous savez, les stades ultérieurs, donc au niveau anal et au niveau, ils vont se retrouver dans les aspects de la maîtrise et je dirais de l'organisation aussi de l'emprise dans le lien. On va reprendre ça tout à l'heure avec les problématiques de séparation. Et les aspects phalliques qui vont, à l'adolescence, se transformer sous une nouvelle donne. Hein. C'est-à-dire que le phallique accède au génital. Et si les petits enfants de, je dirais, 4-5 ans peuvent se trimballer, plutôt 4 ans, trimballer les fesses à l'air en étant tout fiers de ce qu'il y a entre leurs jambes, voilà. Pour autant, ils n'ont pas accès à une forme de génitalité, à une sexualité de type génital. Hein. Et c'est bien à l'adolescence que l'accès à ce potentiel-là, sexuel génital, va pouvoir advenir. Il y a René Roussillon d'ailleurs qui a proposé de penser ces questions-là à l'adolescence autour du potentiel orgasmique, ce qu'il appelle. C'est-à-dire qu'il dit comment il y a ce potentiel qui est là, il y a un potentiel orgasmique à l'adolescence, on peut accéder à l'orgasme. Et pour autant, on n'y accède pas. La plupart des ados sont relativement frustrés, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des excitations dans les parties génitales pour autant avoir l'occasion ou l'opportunité de les réaliser et puis avoir surtout envie dans la réalité de les réaliser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez, d'assez troublant par rapport à ça. Donc il y a les premières sensations ressenties et il y a un délai de latence entre ou les premières directions, ou les premières sensations vaginales, et la possibilité d'avoir une relation sexuelle dans la réalité. Ce délai de latence-là, il est important, il va générer cet accès à ce potentiel orgasmique. C'est-à-dire c'est un potentiel, c'est quelque chose qui est en manque à être révélé, qui va se révéler si la personne se développe bien et qu'elle accède à une vie adulte, je dirais, suffisamment établie, avec une bonne intégration des pulsions. Pour autant, ce délai de latence-là, il confronte l'adolescent à quelque chose dont il ne peut pas faire usage. Hein. C'est un peu comme si on donnait, un enfant de 6 ans, une voiture, qui disait, tiens, voilà les clés. Qu'est-ce qu'il en ferait? Il ne pourrait sans doute pas atteindre les pédales. On est dans ce type d'expérience. Hein. C'est comme demander à un enfant de faire du vélo sans les petits trous. Il faut commencer par là, et puis après, on arrivera à prendre une autonomie. Je dirais que jusqu'à un certain point, le fonctionnement pulsionnel fonctionne à peu près de la même façon. Ça veut dire que c'est bien par étapes que l'intégration et l'intrication pulsionnelle va pouvoir se produire au niveau de la psyché. On note aussi, du coup, un besoin de tendresse chez ces adolescents-là. Aujourd'hui, j'avais une collègue qui était un peu troublée parce que dans l'établissement où je travaille, un adolescent qui, je ne sais pas quel âge il doit avoir, moins 14-15 ans, mais qui a un léger retard de croissance, donc il n'est pas très grand, il fait un peu chétif, il fait encore en garde à 18 ans, et était venu dans ses bras, se loger contre elle, et en recherchant un quintet qu'il avait un peu troublé, où il disait, mais il est. Voilà, il avait la tête enfouie dans sa poitrine, et il y avait quelque chose qui, effectivement, vous s'est dit. Et à la fois, il cherchait une forme de galère, sensiblement suffisamment naïf. Enfin, il n'y avait pas d'arrière-pensée là-dedans. Et pour autant, nous, en tant qu'adultes, on y met de l'arrière-pensée, parce que nous, on a un autre usage de notre corps, et on sait ce que c'est que la vie sexuelle génitale adulte, et du coup, on ne peut pas s'empêcher de penser, effectivement, que ces choses-là sont réelles. Ça contient cette vie sexuelle génitale adulte, alors que l'ado n'est pas forcément encore là. Cet exemple pour penser ce que Jean Laplanche a proposé dans la situation anthropologique fondamentale, du côté de, comment dire, d'une réflexion autour de l'expérience première du nourrisson, où il dit bien comment. Quand la mère allait son enfant, quand le parent lave ou nettoie son enfant, l'adulte, lui, est gros de tout son, comment dire, tous ses investissements libidinaux vis-à-vis des différentes parties du corps. Et on ne lave pas de la même façon le visage d'un enfant, le bras d'un enfant, le dos d'un enfant ou le sexe d'un enfant. Les gestes seront mesurés, seront pondérés, sinon il y aura un côté excitatoire. Au niveau des parties génitales. Jean Lacan, je propose de penser qu'effectivement, ça n'empêche pas qu'il y ait inconsciemment toute une forme d'automatisation, mais qui est réprimée, ou refoulée, mais à certains moments, elle peut arriver à la conscience et être réprimée, chez l'adulte qui s'occupe de l'enfant. Dans l'expérience de l'allaitement, il y a on ne peut pas imaginer que le fait d'avoir une sensation de stimulation sur le mamelon n'est pas à un moment donné un caractère excitatoire. Sauf que pour pouvoir allaiter un enfant, on ne peut pas l'allaiter en ayant ça en tête. Donc voilà. Donc il y a ce jeu-là entre nous, nos repères d'adultes, et les besoins de l'enfant. C'est aussi ce que Sandor Ferenczi avait proposé du côté de penser, du côté de la confusion des langues. Et je vous renvoie à cet article qui est assez intéressant sur la confusion des langues entre les adultes et les enfants, sur les enjeux et la disparité qu'il peut y avoir entre les besoins des enfants et les conceptions des adultes. Du coup, si, comment dire, ces adolescents peuvent aller chercher des besoins de tendresse, pour autant, il y a l'ensemble de leurs expériences antérieures qui nous laisse à penser que ça reste aux prises avec quelque chose d'un processus pubertaire. Pour le dire autrement, on pourrait dire que les investissements de l'adolescent vont apparaître éminemment narcissiques, dans le sens où ils ont un besoin de construire leur identité. Et l'identité passe par la question du narcissisme. Je ne sais pas si vous avez ces repères au niveau des nourrissons. On parle d'une forme de narcissisme primaire où, on va dire, tous les investissements sont rabattus sur le moi. Les investissements libidinaux sont rabattus sur le moi pour essayer de se construire les préformes d'une identité. Et puis, par la suite, en grandissant, on va parler de relations d'objets, c'est-à-dire qu'il y a un narcissisme secondaire et que les investissements vont se projeter sur un autre objet pour parachever, on va dire, la construction identitaire. À l'adolescence, on voit la réémergence de ces aspects narcissiques dans les relations d'objets. On ne peut pas dire qu'il y a une forme de régression à un état antérieur où il y aurait une prééminence du narcissisme primaire. Absolument pas. Parce que les expériences antérieures ont été vécues. Elles sont inscrites, elles sont intégrées dans le fonctionnement de l'enfant et de l'adolescent. Pour autant, on voit ces aspects narcissiques être mobilisés dans une forme d'inflation d'une position d'omnipotence infantile. Il est l'usage de dire dans nos pratiques que l'enfant pourrait être tout puissant, c'est la toute puissance de l'enfant. Nous, on parle d'omnipotence aussi, infantile. Que l'enfant se sent invincible, infaillible, grandiose. S'il en est comme ça pour l'enfant, l'adolescent, on voit bien comment il va lui être aux prises avec ces mêmes conceptions, et ce qui va l'amener à avoir des conduites ordaliques, hein, des conduites à risque, à certains moments, se sentant invincible, invulnérable, indestructible. Ces formes de conduite ordalique ont pour but d'essayer de se confronter du côté du principe de la réalité aux limites de notre propre narcissisme, hein, et aux limites du moi, pour essayer de voir effectivement jusqu'à quel point notre narcissisme serait invincible ou indestructible. Dans certains cas, ça peut amener à des processus, assez pathologiques. Mais il s'agit aussi de processus d'une manière assez normale, assez normaux. En fait, ça fait partie du vivant et de la normalité que de pouvoir entretenir des formes de conduite à risque à l'adolescence. Tout à l'heure, vous évoquiez la question des processus régressifs, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une régression, d'un retour en arrière ou non. Je ne crois pas qu'on puisse le penser seulement de cette façon-là, et je pense qu'il y a régression si les choses vont mal. On sait comment on régresse en état de maladie. Hein. Quand on est malade, on a envie de se coucouner, on a un besoin de nursing, on a un besoin de holding, qui correspond au premier processus d'intégration, tout à l'heure dont je parlais fonctionnel. Ce besoin-là, il est de se mettre sous la couette, au chaud, avec un chocolat, et de regarder la télé ou d'écouter de la musique, de se bercer, de s'auto-bercer. Ces expériences-là, elles sont des expériences régressives par nature. Pour autant, à l'adolescence, il n'y a rien qui force ce processus-là. Simplement, il y a des conduites qui nous laissent à penser qu'il y a, à un certain moment donné, l'adolescent, quand il est débordé par cette exigence de réorganisation, il va aller chercher des expériences rassurantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il perde les acquisitions qu'il a faites ultérieurement. Mais simplement, il y a un besoin d'aller vérifier aussi les choses connues de son corps. Il faut quand même imaginer que le bouleversement pubertaire, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça amène à une modification hormonale, corporelle, physiologique. Hein. Chez les garçons, la voix change. Et c'est pas simplement l'histoire de la pilosité et d'une croissance musculaire et osseuse. Hein. C'est vraiment, on voit bien comment chez les adolescents, quand on les observe, quand on est adulte, on est assez effaré de voir comment ils sont complètement anéantis par ces transformations-là. Ce qui est assez compliqué, c'est ce dont je vous parle, ça peut vous paraître énigmatique, mais je l'avais annoncé dans l'introduction, c'est-à-dire que entendu que l'adolescence reste énigmatique pour la plupart d'entre nous. On a beau lire ça dans les bouquins, si on ne l'explore pas au travers d'une expérience analytique personnelle, malgré tout, on ne se souvient de pas grand-chose. Hein. Et on ne se souvient de pas grand-chose nous concernant. C'est-à-dire qu'on peut le voir chez les autres, on peut le constater chez les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les adolescents sont si insupportables pour tous dès qu'on est devenu adulte, enfin à peu près adulte. Mais voilà, il reste insupportable, on ne les comprend pas. Pourquoi ils font autant de bruit dans le métro, pourquoi ils se font remarquer à ce point-là, pourquoi ils traînent, pourquoi. Enfin. Et pour autant, on est sans doute tous passés par là. Sauf que on n'a pas forcément gardé de trace. J'avais quelques notes comme ça que j'avais pris un jour où j'avais essayé de réfléchir sur la question du bruit et du cri, des cris pour pousser ces ados. Et voilà, je vais vous en faire part comme ça. Avec l'idée qu'on pourrait essayer de les écouter comme si ça pouvait concerner tant des nourrissons que des adolescents. Hein. On pourrait essayer de s'imaginer, je vais parler de ça, soit un nourrisson dans son berceau, soit un adolescent, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des limites. Hein, mais je travaille dans une institution avec des grands couloirs et qui est très mal insonorisée, qui est une vieille institution, et où du coup les sons parcourent les couloirs, ça résonne, ça fait énormément de bruit. Et avec des adolescents qui sont réputés avoir des troubles du comportement, ça fait du bruit. Hein. Ça fait du bruit et ce premier aspect, même qu'on peut rencontrer n'importe quel lycée ou collège de France, je pense, Du coup, ma mère interrogeait, ou des fois, je me disais, mais tiens, qu'est-ce que ça signifie ces cris? Et c'est ça qui m'avait amené aussi à pouvoir proposer ce lien entre les cris de bébé et la crise d'ado, dans le sens où la crise, elle a une version dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais je souhaitais vous en dire deux mots. Quand on parle de crise, il y a la crise d'adolescence classique, hein, c'est tout ce qu'on vient de se raconter, et puis il y a l'état de crise. Il y a la crise, il a pété un plomb, hein, il a fait une crise. On peut dire ça d'un enfant comme d'un adolescent. Faire une crise, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est claquer une porte? Est-ce que c'est se rouler par terre? Est-ce que c'est donner des coups dans tous les sens? Et se mettre à hurler? Voilà. On s'aperçoit que là, les adolescents peuvent faire ces scènes-là, tout comme les petits-enfants peuvent s'agiter dans tous les sens et essayer de tenter de se réorganiser. Il y a quelque chose, il y a une sensation qui est inintégrable dans le corps. Ils s'ébattent, ils se mettent à crier et ils essayent de trouver une réponse dans l'environnement pour essayer d'intégrer ça. En réfléchissant à ça, je m'étais dit du coup que le langage de l'adolescent recelait une part d'énigmatique. En pensant à ces cris, qui peuvent être issus d'une situation de crise, donc d'un adolescent en crise, mais pas seulement, mais j'avais pensé à ces cris et je me disais que ces cris donc, suivent une temporalité à un rythme tel que ces cris ne sont pas toujours identifiables quand on est au loin, je peux être dans mon bureau, ça j'entends des cris, ils ne sont pas vraiment identifiables. Il s'agit d'une expression informe et puis peu à peu il y a des mots qui apparaissent dans ce flot informe. Hein. Dans les cris d'un bébé, on sait que quand le bébé commence à grandir et utiliser le langage, donc quand il pleure, quand il est en état de détresse, il va hurler, il va pleurer, et puis peu à peu, il peut y avoir des mamans qui commencent à poindre comme ça au sein des cris. C'est un discours qui finalement peut parvenir chez l'adolescent à être identifié, à s'organiser. Et puis, je me fais la remarque que quand le moment d'acné est passé, pour l'adolescent, la crise est insupportable et il doit s'enfuir ou s'isoler. Quand c'est dans la maison, il va s'enfermer dans sa chambre. Quand c'est dans un établissement spécialisé, c'est un peu plus compliqué. D'une manière générale, je ne vais peut-être pas tout vous réciter des formes que j'avais pu noter, mais je trouvais que ces cris ou ces crises sont une forme d'expression qui ne s'adresse pas seulement au destinataire qui est objectivement perçu. C'est le monde entier est concerné. Il y a quelque chose de soi, depuis l'intérieur de soi, qui est étalé, qui est diffusé en dehors de soi. Et du coup, ça s'adresse à tous les objets qui passent à la portée. Et le monde entier, vraiment, est concerné. Ça devient une affaire du monde. Ça devient une espèce d'inflation du moi, là, où, si c'est en famille, on pourrait appeler tous les amis, la famille, les voisins. On fait en sorte d'impliquer la terre entière, tandis que la terre, pour un adolescent, c'est un univers pas si grand que ça, hein, donc relativement restreint. On va dire que peut-être que maintenant, les adolescents qui vont bien, quand ils font une crise, ils mettent un post sur Facebook, et puis ça suffit. C'est-à-dire que ça permet d'interpeller les 1800 amis qu'ils peuvent avoir, et puis voilà. Mais les nôtres, ils n'ont pas le droit d'utiliser Facebook dans les établissements. Du coup, ces cris et ces crises contiennent une double balance, agressif et vulnérable. Ça veut dire qu'on voit bien la détresse qu'il peut y avoir, et que c'est à partir de cette détresse-là que, au moindre tournant, il ne suffit pas grand-chose, ça puisse se transformer en une crise classique avec l'agressivité et la violence, hein, l'émergence de la violence. Mais on voit bien comment ce qui peut être parfois d'emblée extérieurement perçu comme un état de violence, d'agressivité, est finalement le signe aussi d'un état de détresse interne. Cette crise, elle a comme intérêt qu'elle permet un renversement passif-actif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui est vécu comme un état de non-intégration, et on va essayer de se réapproprier en adressant au monde la violence que ça nous adresse à nous. Hein. On essaye de le renvoyer à l'objet ou aux objets autour de soi. Du coup, c'est l'agression qui permet d'exprimer sa détresse, et la victime devient parfois un sens agresseur. Ça mobilise tout le corps, la voix, les pleurs, les tensions motrices, la parole n'est pas seulement efficiente, mais du coup il y a des cris, Et la parole, elle est systématiquement accompagnée de gesticulations, de grands mouvements du corps. Et là, on peut penser même à certains jeunes, comme je vous disais, dans le métro, au Place Bellecour, à Bardieu, enfin, voilà, où on voit bien comment ils font du bruit. Le monde, du coup, le monde qui est autour de ces adolescents est à la fois secoué, interpellé et impuissant. On ne peut pas rester insensible à ça. C'est-à-dire qu'on en est témoin, on est interpellé et à la fois, on n'a pas grand-chose à pouvoir faire sur le moment pour pouvoir contenir ça. Je me tiens à la réflexion aussi qu'il s'agissait d'un message paradoxal. Quand l'ado est dans l'état de crise, c'est un message paradoxal parce que c'est adressé et à la fois, ça n'attend pas de réponse. Sur le moment, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est juste reconnaître, pour le moins, que cet état-là est en train d'avoir lieu, hein, cet état de désorganisation. Mais vouloir le contenir dans la réalité, on y est obligé si effectivement il y a une mise en danger physique de soi, mais sinon, raisonner un adolescent sur le moment en disant « vous faites trop de bruit » ou « arrête de crier » ou ça a souvent aucun effet, si ce n'est au contraire les faire flamber un peu plus. J'ai aussi la remarque que c'était imprévisible et que ça peut cesser à tout moment. Voilà. Et qu'une fois la crise passée, pour l'adolescent, bien souvent, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire quand on essaie de revenir sur ce qui s'est passé, ça n'a pas eu lieu. C'est impossible. Peut-être qu'il n'y a même peut-être pas à devoir revenir là-dessus. C'est peut-être qu'une des parts importantes de l'environnement est de devoir supporter ce moment de désorganisation, d'en être témoin et de pouvoir réaliser comment ça témoigne de la désorganisation interne liée au processus pubertaire, et puis sans forcément chercher à l'encadrer ou à le contenir, parce que ma foi, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir le contenir ni le comprendre, tout comme l'adolescent confronté à ces processus pubertaires doit survivre dans ces expériences-là, mais sans forcément pouvoir les intégrer d'emblée. Du coup, je pensais à ces cris qui m'interpellent parfois dans l'établissement. Et si on n'écoute que les cris, au-delà de la crise, les cris renvoient aux conduites d'un petit enfant. Je me disais que les cris sont liés à un plaisir d'organe aussi, à un certain moment donné, où crier, ça permet d'éprouver, d'épuiser le corps, ça permet de faire travailler la voix. Je me souviens un jour d'avoir passé un voyage en train, des 3 heures de train, c'est pas énorme, mais où c'est une jeune enfant qui avait une ritournelle comme ça, et elle nous l'a frimée pendant tout le wagon, on a profité pendant les 3 heures, et elle, il y avait un plaisir, c'est-à-dire un plaisir à dire les quelques phrases, mais et elle le répétait, elle n'avait pas la folle pour ça, elle n'avait pas l'air d'avoir un souci particulier, mais c'est une petite fille normale, mais je ne sais plus quel âge elle avait, peut-être entre 2 ans et demi, 3 ans, enfin. Mais et du coup, elle a répété ça pendant tout le voyage, ce qui rendait fou par contre avec tout le monde. Hein. Mais parce qu'autant à des adultes, on peut leur dire de se taire, mais un enfant de cet âge-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et du coup, au bout d'un moment, j'étais un peu bercé par sa voix, et je m'apercevais aussi du plaisir qu'elle pouvait prendre à s'entendre. Hein. Il y a quelque chose comme ça d'un rond qui se crée, et d'un auto-bercement qu'elle cherchait sans doute à produire. Hein. Jusqu'à un certain point, on aurait pu imaginer que ça pouvait reproduire comme un roulis dans le train, enfin quelque chose de cette forme-là. Du coup, voilà, le plaisir d'organe, le plaisir de faire travailler la voix, comme parfois certains nourrissons peuvent être amenés à expérimenter leur première tentative d'expérience vocale. Je me suis dit que ces réflexions, ces cris, ils permettent de dépasser l'enveloppe corporelle. Ça envahit l'espace. Le son, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que le son, il déborde de soi. Quand on parle, c'est quelque chose qui n'arrive à produire au-delà des limites de notre moi, au-delà des limites de notre soma, et du coup le son émet une vibration qui tremble dans les airs et qui parcourt comme ça plusieurs mètres, des dizaines de mètres. Ce son, il a du coup la qualité de pouvoir envahir tout l'espace, d'être partout. Hein. Et en ce sens, il remplit les vides. Et je crois que ça permet aussi, on peut le penser, et chez le nourrisson, qui en manque à rencontrer un espace contenant, et chez l'adolescent qui en manque à rencontrer des limites, le son permet de créer, on pourrait imaginer, une forme d'univers cotonneux, hein, on pourrait le penser sous cette forme-là d'image, c'est-à-dire ça permet de remplir du vide avec du plein, et du plein qui est du plein virtuel parce qu'il est du son. Du coup, je m'étais posé la remarque, enfin j'avais plutôt fait le constat que ces cris, ils peuvent prendre une forme plus évoluée en imitant ou en ressemblant volontairement ou non à des cris d'animaux. C'est des formes agressives que j'ai pu constater chez des ados, alors ou des ados qui ont bien ou des ados qui ont des soucis, hein, mais ça peut leur arriver de pouvoir se mettre en métier des animaux comme ça, quand ils se mettent à crier pour envahir tout l'espace. Il y a un effet de foule, il y a vraiment un effet de groupe où effectivement ils régressent à quelque chose, une forme de jeu, hein, au travers de ça. Moi ça m'avait fait penser aussi aux footballeurs, aux supporters de football dans les stades de foot. Je me disais que ces cris qui sont poussés en groupe, quand ils sont poussés en groupe, ça permet de se sentir gigantesque, invulnérable. C'est-à-dire qu'on se sent extrêmement puissant et on retrouve ça dans les conduites de groupe, soit dans les manifestations, quand les gens vont dehors, dans la rue, se demander, on va y aller sur l'espace, on retrouve exactement ces conduites là de l'écran, ou dans les, voilà, dans les spectacles, dans les concerts, ou dans les stades de foot. C'est-à-dire que on envahit le monde entier et on se sent gigantesque grâce à pas grand-chose finalement. Voilà sur la question des cris, comme ça, quelques associations, quelques rêveries. Après, il y a un ensemble de pistes, hein, je vais pas balayer l'ensemble du fonctionnement psychopathologique ou du développement psychique normal autour de ces liens entre le nourrisson et l'ado. Mais après, je vous laisserai, si vous le souhaitez, pouvoir amener aussi des expériences. Peut-être de dire deux, trois points sur ces aspects de la régression en tant qu'il convoque les processus de dépendance et d'indépendance, d'immaturité et de maturité, ou de séparation et d'individuation, comme les analystes le nomment maintenant. J'ai lu un article de Gold dont je vais filer la référence, comme ça vous pourrez aller voir, où il balise comme ça deux, trois choses, où il reconnaît une paraphrase de l'article de Winnicott en disant un adolescent tout seul, ça n'existe pas. Et ça reprenait une expression de Donald Winnicott qui disait un nourrisson tout seul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas sans des bras pour le porter, sans une mère pour le nourrir, sans un regard pour l'animer. C'est-à-dire qu'un nourrisson seul, ça n'existe pas. Lui, en tant que pédiatre, il disait, quand je rencontre un nourrisson, il ne vient pas tout seul. Il vient accompagné et qu'il faut prendre en compte, effectivement, l'environnement qui l'accompagne. Et donc, Bernard Gold, il propose cet article dans la revue Dialogue, donc, qui est paru en 2012, au quatrième semestre. Il propose de revisiter, comme il dit, donc l'adolescence et sa famille par les nouvelles connaissances sur le bébé. Il va sur des choses un petit peu plus techniques, dont là je ne parlerai pas, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais vous pouvez trouver vraiment de la littérature à ce sujet. Du coup, de penser, juste d'avoir une petite réflexion sur les premières capacités du nourrisson à pouvoir devenir indépendant, quand par exemple il y a l'acquisition de la marche, et puis l'adolescent qui erre. Quand un adolescent est en errance, moi j'avais pensé à ça, je me disais, tiens, les enfants n'errent pas d'habitude, ils sont rarement en errance, les nourrissons un peu moins. Et en pensant à ça, je me disais, mais à partir du moment où il y a l'acquisition de la marche, ça permet aussi de répéter les premières expériences de séparation. Au début, le nourrisson, il est alité, hein, il est dans son berceau, c'est la maman qui vient ou qui repart. Et donc lui, il est là, dans un état où il ne peut pas se déplacer tout seul, et c'est l'environnement qui le quitte ou l'environnement qui le retrouve. Mais lui, il ne peut pas décider cette expérience-là. Quand il va commencer à pouvoir développer sa motricité de façon suffisamment convenable, alors là, il pourra aller se balader. Et là, c'est la mère qui sera inquiète en disant « Oh, mais où est-ce qu'il est parti ?» Et les premières angoisses comme ça qui vont commencer à apparaître, « Mince, il a filé, on ne voit pas, en plus il est tout petit, il est parti caché, on ne sait pas où. » Et c'est un jeu de cache-cache qui est un peu anxiogène, hein, parfois. Mais qui est bon, parce que là, l'enfant, peut-être avec une forme de sadisme inconscient, essaie sans doute de faire vivre à ses parents ce que lui a pu vivre, ça veut dire être quitté et quitter l'autre et être démuni par rapport à ça. J'avais eu ces formes d'association-là autour du processus de séparation et d'individuation et puis de la dépendance et de l'indépendance. Chez les adolescents, quand ils fuient, quand ils errent, quand ils vont se balader, quand les parents attendent anxieusement en regardant leur montre, mais il n'est toujours pas rentré, mince, où est-ce qu'il a pu aller, ça rejoue bien cette première scène où l'enfant disparaît juste de quelques mètres pour aller se cacher derrière un placard. On est à peu près dans les mêmes enjeux, sauf que le monde a grandi et que la pièce de jeu n'est plus seulement à l'échelle d'une habitation, mais la pièce de jeu est peut-être la ville entière. Et pour certains qui savent fuguer, ça peut être même le département ou la France entière, voire plus. Mais du coup, on voit bien comment le déploiement de l'environnement permet à l'individu de faire des expériences, mais du coup, les règles du jeu sont un peu plus compliquées, puisque quand l'enfant part à l'autre bout de la ville, le bout est 300 km, c'est un petit peu plus anxiogène pour les parents. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la question de l'immaturité et de la maturité, hein, du besoin d'indépendance et à la fois de l'incapacité à pouvoir être dépendant, pour l'adolescence. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que l'adolescence, il y a ce besoin d'être indépendant et à la fois l'incapacité de pouvoir prétendre à ce besoin. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment... ils sont pas suffisamment outillés, on pourrait dire, pour prétendre à ce à quoi ils aspirent tant. Et donc ils revendiquent quelque chose auquel ils savent éperdument qu'ils ne sont pas à même de pouvoir accéder. Et c'est bien ce paradoxe-là, à l'adolescence, qui fait tant souffrance. Si je vous parlais de Bernard Golz tout à l'heure, c'était parce que, du coup, dans son article que je vous ai cité, de 2012, il prenait la métaphore de l'araignée et il disait, voilà, à l'adolescence, il y a ce processus de séparation et d'individuation. Il propose de pouvoir penser autour de se détacher ou s'arracher, avec, en prenant l'expression, on va dire, argotique, des ados qui disent, je m'arrache, hein, on s'arrache. Il pensait juste à une figure d'une araignée qui descendrait du plafond, et il dit, quand l'araignée descend du plafond, elle saute pas, pour arriver en bas. Hein. Quand elle descend du plafond, elle accroche un fil, elle déroule son fil, elle descend tout doucement, et arrive au sol, le fil est toujours là. Elle peut même remonter, c'est l'avantage. Elle peut jouer à revenir en arrière, dans le processus de croissance, c'est un peu plus compliqué. Mais, du coup, cette figure pour dire que finalement, dans le processus de séparation et individuation, il y a bien ça. C'est-à-dire qu'à la fois, elle fait de quitter un espace, et à la fois, il y a fait de maintenir un lien constant avec ses expériences intérieures et avec son environnement. Et à l'adolescence, on voit bien comment, à la fois, il voudrait être autonome et vivre seul, et à la fois, comment, dès qu'on leur donne l'occasion de pouvoir vivre ça, ils vont aller se recoller à papa ou à maman ou aux éducateurs, parce que, effectivement, l'autonomie réelle engendre bon nombre d'angoisses. Qui déborde bien souvent les capacités de l'individu. Et je finirai juste, avant de vous laisser la parole, sur une petite remarque sur l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, vous en avez déjà, pour certains d'entre vous, déjà tous entendu, enfin, peut-être entendu parler, c'est ce que Winnicott a théorisé juste pour parler du doudou. C'est le doudou, le premier objet du nourrisson, et du jeune enfant, on va dire, pas du nourrisson, du jeune enfant. Et ce premier objet, il condense l'ensemble des expériences, il contient l'ensemble des expériences de lien à l'environnement premier. C'est-à-dire qu'il permet de faire trace avec l'objet maternel le plus souvent et supporter la séparation en emportant une expérience de l'histoire vécue avec l'objet. Et souvent, si le doudou est perdu, c'est quelque chose de terrible. Et voilà, il y a une crise totale, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il soit modifié dans sa substance ou dans son état. Il ne peut pas être lavé, il ne peut pas être transformé. Il a une espèce de rapport fétiche, et Winnicott fait bien un rapport fétiche aussi à l'objet transitionnel, qui est pas du tout pathologique, qui est du fétichisme, je dirais, bon à loi. Et du coup, le nourrisson est extrêmement attaché à cet objet-là. En pensant à ça, j'avais une petite pensée pour ce qui se passe dans les écoles maternelles. Ou dans les écoles maternelles, il y a une caisse à doudou, c'est-à-dire qu'on propose un contenant, enfin, ça arrive, c'est pas dans toutes les écoles maternelles, mais dans certaines écoles maternelles, en petite section, certaines maîtresses ont eu la bonne idée de dire bah, il va pouvoir faire sans pour avoir ses deux mains libres, mais pour autant, c'est insupportable de ne pas venir sans le doudou, donc elles peuvent mettre une boîte, puis les enfants mettent le doudou à l'entrée, et puis. Du coup, ils savent qu'il est là, ils vont aller vérifier toutes les demi-heures au début, puis après un peu moins souvent. Et puis, ils peuvent le récupérer au moment de la sieste ou évidemment pour repartir chez eux. Hein, voilà. Donc il y a ce lien là, au trace antérieur, hein, on emporte un petit peu de chez soi, je dirais, pour pouvoir supporter les différences du monde dans un monde qui est un peu étranger à nous. Je pensais à ça parce que comment travailler avec des adolescents, on peut s'apercevoir à quel point ils sont éminemment attachés à leur téléphone portable. Et comment nos enseignants bataillent et nos éducateurs pour les faire se déprendre de leur téléphone portable. Mais à tel point qu'ils font une crise, là, du coup, hein, si on veut leur retirer. C'est un arrachement de soi. Et les adultes ne comprennent pas. On sent, c'est voilà, c'est un téléphone, tu le ranges, c'est le règlement, c'est ça. Hein. Le faire appel au règlement, ça ne suffit pas. Le téléphone, c'est leur vie. C'est insupportable. Et parfois, ils viennent me voir en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est ça, mais vraiment. Et ils traitent l'adulte de tous les noms en disant, mais c'est comme si vraiment on les avait mis tout nus, ou comme s'il y avait une expérience de dépossession, d'arrachement, de dévoilement de soi avec le fantasme cyclope pour aller regarder à l'intérieur. Mais il y a quelque chose de, vraiment d'une mise à nu de soi, d'un forçage ou d'une expérience enfin, ça confronte en tout cas un état de vulnérabilité, de précarité de soi. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à la question des téléphones portables, à l'heure actuelle, ce dont les adolescents témoignent, c'est que ça contient l'ensemble de leur monde interne, un peu comme une forme de prothèse du moi, comme une forme d'appareillage un peu externalisé au moi. Le téléphone portable contient l'ensemble de leur correspondance. Nous, quand on étudie les correspondances de tel auteur avec tel auteur, on a fait des bouquins. Maintenant, les correspondances sont sur des disques durs chez Google Industries au fin fond du Dakota. Enfin, voilà, c'est sur des serveurs. L'ensemble des correspondances se passe par mail, passe par texto ou SMS. Et ils ont l'ensemble de leurs liens contenus sur leur téléphone portable. Ils ont des photos de famille. Moi, je suis en consultation, ils me montrent. Mais vous comprenez pas, elle m'a dit ça, et après je lui ai répondu ça, elle a dit bon. Utiliser le recours à la réalité, à la concrétude de l'objet, en montrant l'échange qu'ils ont eu, pour montrer leurs animaux de compagnie, leur famille, enfin voilà, avec les photos. Ça contient aussi un environnement musical, voilà. Et je me disais effectivement que le téléphone portable permet de laisser à penser qu'il pourrait recéder quelques restes, on va dire, de l'expérience traditionnelle du jeune enfant avec le doudou. Et puis je m'étais aussi dit que souvent à l'adolescence il y a un besoin de changer très souvent de modèle et que ce besoin de changer impérieux, de changer de modèle très fréquemment pouvait correspondre aussi au besoin de devoir avoir un appareil qui évolue en même temps que soi, un petit peu comme le corps est en train d'évoluer. Voilà, il faut avoir quelque chose qui soit dernier cri, qui soit dans la même temporalité que l'évolution de soi. Enfin, voilà, c'était juste une petite rêverie sur ces aspects bébé-ado. Je vous propose d'en rester là et de pour laisser suffisamment de place pour les questions, les débats et la suite de la conversation. Merci.